Alors, passons maintenant à la différence entre le jugement et constatation de ce qui est. Une question de Ladette et Mivong. Lorsque je suis en présence de personnes à qui j'accorde de l'attention, j'écoute et regarde à fond. Si on me demande après ce que je pense de mes interlocuteurs, je décris ce que j'ai ressenti, cela grâce à ma sensibilité, sans jugement de valeur. C'est sûr que je décris les côtés sombres en premier, mais sans état d'âme, c'est mon ressenti tout simplement. Et il y a une personne de mon entourage, toujours la même, qui ne manque pas de dire arrête de critiquer. Et j'ai beau lui expliquer que c'est seulement une description de mon ressenti, elle reste sur son jugement de critique de ma part. Doit-on se nier à ce point? Alors là, bah, c'est juste un truc qui est très simple. Ce n'est pas parce qu'on a une grande sensibilité et que l'on voit des choses que l'on se doit de le dire. Si quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Bah, quelque part, posez-vous la question. Quand vous avez le dos tourné, et lui, s'il repose la même question à d'autres, donc c'est que du jugement. Donc, d'une certaine manière, vous pouvez regarder ce qui est, faire votre opinion, mais vous êtes en aucun cas obligé de la dire. Ceci relève de votre interprétation et donc n'a aucune preuve. Je veux dire, c'est pas infaillible. Donc moi, quand je regarde quelqu'un, je vois tout de suite à quoi j'ai affaire. Est-ce que c'est pour ça que je vais le dire à l'autre? Non, l'autre n'a même pas besoin de savoir. Donc le problème ici, ce n'est pas de dire ah, tu es toujours en train de critiquer. C'est la vraie question, pourquoi j'ouvre ma bouche et je dis ce que je vois? C'est là le problème, c'est tout. Donc, pour répondre à Ladette et Mivong à ce niveau-là, eh bien, c'est simple. Regarde ce qui est, fais ton opinion. Parce que c'est toujours quand même intéressant de savoir qu'il y en a un qui va essayer de jouer au requin avec toi. Tu dis, ah, un requin. Donc, tu regardes le requin. Tu joues avec le requin, mais tu fais attention qu'il ne te mette pas un coup de mâchoire. On est d'accord. Mais si tu dis, non, non, je ne juge pas, je ne regarde pas, puis tu te prends un coup de mâchoire, tu dis, il ne pourra t'en prendre qu'à toi. On est d'accord. Donc, le truc, on peut se faire une opinion sur les gens en fonction de ce que l'on ressent, de notre sensibilité, hein, que ça peut s'avérer très juste, comme ça peut s'avérer plus ou moins juste, eh bien, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le dire aux autres. Parce que là, vous passez dans le jugement. Dans le sens que vous pensez, vous dites, voilà, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi pas vrai. Donc, le truc, c'est que regardez ce qui est et fermez votre gueule, c'est tout. Parce que moi, si je devais dire à voix haute tout ce que je vois, je peux vous dire que depuis longtemps, j'ai déjà pas beaucoup. Enfin, je veux dire, j'ai pas de copains, donc c'est pas. Mais plus personne ne voudrait me voir. Parce que bah, on est quand même, d'une certaine manière, tous issus de la 3D et on est loin d'être propre. Enfin, je veux dire, on peut voir avec beaucoup de précision. Enfin, moi, je sais que je peux voir un certain nombre de choses, mais je ne le dis pas aux gens, parce que sinon, ils n'oseraient même pas me serrer la main, me dire bonjour, ils m'éviteraient. Donc, je dis rien, mais ça n'empêche pas de voir. Mais aussi, derrière, c'est pas parce que vous voyez des choses horribles ou des trucs pas possibles qu'il faut avoir du recul et dire non, non, celui-là, jamais, je veux pas ce mon chemin. Non, je reste avec le sourire avec tout le monde, mais je sais distinguer le nounours. Le bisounours du requin. Je sais celui qui sera gentil et qui ne me fera aucun mal de celui qui me plantera un couteau dans le dos dès que j'aurai le dos tourné. Donc, simplement, j'en suis conscient. Mais la personne qui est le requin, je lui dirai bonjour, je vais discuter avec, je ferai comme si j'étais un frère parce que c'est un frère, mais simplement, je sais qu'il est capable d'avoir un couteau et me planter dans le dos. Je dis ok, super, très bien, mais je sais. Donc, quelque part, même si je tourne le dos pour repartir, j'ai les yeux dans le dos, comme on dit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être con quand même. Hein, on est encore dans un monde de 3D falsifié, c'est-à-dire dans un monde où il y a des gens qui sont encore en 3D et qui vont, d'une certaine manière, essayer de vous arnaquer, d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas être idiot. Simplement, vous n'êtes pas obligé, à chaque fois que vous voyez un vendeur de Kaamelott, de lui dire « Ah, oh, ce que tu vends, c'est de la merde, et là, toi aussi, quoi. » C'est l'effet résonance. Hein, vous pouvez sortir toute votre science, hein, mais non. Vous dites bonjour, vous discutez, et puis vous passez votre chemin, parce que vous savez que c'est de la pacotille, que c'est de la merde, et que c'est pas pour vous. Voilà. Alors, besoin d'être aimé de façon inconditionnelle, donc une question de la fée. J'ai incontestablement un besoin fort d'être aimé de façon inconditionnelle. Les preuves d'amour ne sont jamais suffisantes, je suis rarement apaisé et tout mon être est à l'affût d'un éventuel non-amour. Évidemment, les situations ne manquent pas. Comment combler ce besoin? Comment gérer le mal-être que je provoque chez les autres qui sont sûrement gênés par la perception consciente ou inconsciente de ce besoin? Ben, aime-toi toi-même. Quand on recherche à l'extérieur, enfin l'amour ou être aimé, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Donc, il faut commencer à s'aimer, et puis le reste, on s'en fout. Voilà, je sais, c'est simple. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'aimer? Ben, quand tu te regardes à la glace, déjà arrête de critiquer. Ça sera déjà une bonne chose. Puis ben, quand tu manges, même si c'est pas diététique, ben, c'est pas grave, prends le plaisir à manger. Enfin, c'est. Quelque part, c'est. Sois ce que tu es, accepte ce que tu es, et ne le mets en face d'aucun jugement de quoi que ce soit. Et à partir de là, plus tu t'apprendras à accepter ce que tu es, et plus ça sera facile pour toi de ne plus chercher l'amour ailleurs, parce que simplement tu auras ouvert les vannes de l'amour qui sont en toi. Et là, c'est la source en direct, donc il n'y a pas de souci, l'abondance, tu en auras autant que tu veux. Et tu en auras tellement que tu ne penseras même plus que tu es dans le non-amour, ou qu'il y a quelqu'un qui te manque d'amour, parce que t'en foutras, c'est toi qui en donneras. Parce que comme dire l'autre, quand on a du trop-plein, faut donner, quoi. Et plus on donne, et plus on en a. Alors, faut être généreux, quoi. Mais faut commencer par soi-même. Alors, ancienne civilisation. Petite question. Sur les peuples de civilisation antérieure, tels que Mu, Atlante, les géants, étaient-ils dans une autre dimension sur la Terre? Les ouvrages, les marques qu'ils ont laissées, nous montrent leur grandeur spirituelle et de très grands savoirs. Sont-ils de nouveau passés dans une autre dimension ou sont-ils repassés par le voile de l'oubli? Alors, bon, il y a un peu de confusion là-dedans, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les peuples qui sont passés sur Terre, il y en avait qui appartenaient, bien sûr, à l'expérience que nous faisons actuellement. En clair, même si j'ai le look d'une tête de préhumain d'aujourd'hui, eh bien, ça ne m'a pas empêché d'être un Atlant. Ça ne m'a pas empêché, éventuellement, d'être un géant. Ça ne m'a pas empêché, éventuellement, d'aller vivre ce continent de Mu. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a eu des milliers d'incarnations, ça ne veut pas dire que ces milliers d'incarnations ont toujours été dans le même modèle. Vous savez, aujourd'hui, si je me déplace dans une voiture qu'on appelle un kangoo, bah, j'ai commencé d'abord sur une trottinette. Hein. D'accord? Donc ça veut dire que le véhicule bah, a été un jour une trottinette. Et puis un jour, ça a été un vélo avec les roues à côté pour pas que je me casse la gueule. Et puis après, un jour, ça a été le vélo de course. Et puis après, ça a été le vélo moteur. Et puis après, un Peugeot. Un Peugeot 103. Et puis après, ça a été une voiture. Et puis j'ai changé de voiture. Mais j'ai pas toujours eu une voiture avec quatre roues. Donc, c'en est la même chose par rapport à tous ces peuples et à toutes ces civilisations qui nous ont précédés sur Terre. C'est qu'elles font partie de la même expérience que nous. Parce que nous et eux, bah c'était nous. En tant qu'esprit, d'une certaine manière, c'était nous. Donc, simplement, on s'en souvient pas. Voilà. Donc, quand on dit qu'il y a des changements de race, par exemple, alors là, je sais plus, parce que j'arrive plus à les compter à la fin, mais je sais plus si on rentre dans la cinquième race ou la sixième race, enfin, je sais plus, mais ça veut dire qu'on a été d'autres races avant. Donc, quand nous allons passer en 5D, 6D, il est de fortes chances qu'au niveau du corps physique, il y ait des modifications, je dirais, par rapport à ce que l'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas forcément le même look, c'est-à-dire la même morphologie complètement. On aura certainement, je dirais, des caractéristiques adaptées par rapport au nouveau milieu. Rappelez-vous que quand nous sommes en 5D, 6D, nous allons pouvoir commencer à pouvoir expérimenter la co-création consciente dans le sens réel du terme. C'est-à-dire qu'on construira nos maisons, on construira toutes les choses rien que par la pensée. Donc, au niveau du corps, on aura des organes qui seront certainement plus développés que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on aura un cerveau qui sera 3 fois plus gros que ce que l'on a aujourd'hui, pas du tout. Mais nous aurons certains organes, comme par exemple le thymus. Vous savez que le thymus, il n'est même pas à 5% de la taille normale. C'est-à-dire que ce qu'on voit, nous, chez nous, il devrait être quasiment 20 fois plus gros. Vous imaginez, on va le mettre où, là, par rapport à ce que c'était avant, quoi. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Alors on sera, je pense, toujours dans le type humanoïde, c'est-à-dire une tête, deux bras, deux jambes, et on est verticalisé, mais il y aura probablement, effectivement, des changements physiologiques qui feront apparaître, comme on dit, une nouvelle race. D'abord, je crois que j'en avais déjà parlé dans certains articles aussi, où en fait, par exemple, nos deux hémisphères cérébraux vont refusionner, c'est-à-dire que le corps calleux qu'il y a au milieu va disparaître. Et donc, à partir de là, il va y avoir aussi une extension en termes de cerveau, c'est-à-dire que le cerveau devrait, la boîte crânienne devrait changer un petit peu dans sa forme, on va dire, n'aura pas tout à fait la même forme qu'elle a aujourd'hui. Et puis, par exemple, au niveau des yeux, il n'y a rien qui nous dit qu'on va avoir encore les yeux qu'on a là maintenant, parce que les yeux que l'on a maintenant sont là pour voir ce qu'on appelle une lumière falsifiée. Et donc, peut-être que nous allons, avoir des yeux différents. Probablement d'ailleurs. Imaginez que les yeux, par exemple, des intraterrestres n'ont peut-être pas forcément la même forme et les mêmes aptitudes physiques que celles que nous avons aujourd'hui. On parlait un petit peu plus tôt des organes sexuels, c'est la même chose. C'est pas dit que l'outillage va être identique. Donc, complètement identique dans les formes, les proportions, etc. Donc, il y aura effectivement, je pense, des transformations au niveau du corps, comme il y a eu donc pour les historiens du futur, entre guillemets, nous, on aura été une race parmi d'autres. Mais en fait, ceux qui ont conduit ces véhicules, ces races, c'est toujours les mêmes. Mais simplement, à cause du voile de l'oubli, on ne s'en souvient pas. Voilà. Alors, divers. Alors, Florence, est-ce qu'il y a une différence entre ou une raison entre les personnes qui s'intéressent aux profondeurs marines et ceux qui sont attirés par l'espace? C'est pas difficile. Tout va dépendre, entre guillemets, de vos origines stellaires. Ça peut aussi arriver en fonction de vos vies antérieures. Mais c'est, tout ça, c'est connecté. C'est-à-dire que si vous venez de certaines planètes qui sont dites aquatiques, il est évident que l'aquatique va vous intéresser fortement parce que à chaque fois que vous descendrez dans les profondeurs de l'océan, ça va vous rappeler des comportements, des choses qu'il y a en vous. C'est pour ça que quand on voit des fois certaines personnes, c'est des vrais dauphins. Il y en a, ils sont dans l'eau, c'est leur élément, quoi. Moi, je suis un fer à repasser, enfin, même plus, une enclume. Donc, je ne suis pas fait pour être dans l'élément eau, dans le sens que je ne suis pas un nageur prétendant aller faire les Jeux Olympiques et loin de là. D'accord, je suis passé en fait du club des enclumes au club des fers à repasser, quoi. Donc j'ai fait des progrès, j'arrive quand même encore à flotter, mais faut pas me demander de faire un 50 mètres chronométré, c'est évident. Donc je pense que nos origines stellaires ont effectivement une action directe sur ce que l'on a envie de faire quand on est dans ce vie, dans ce corps incarné. Donc il y en a, ça va être des volants, on va dire. Donc ils seront fous d'aviation, ils seront fous de tous les trucs qui volent, ils feront du parapente, enfin ils vont, parce qu'il faut qu'ils volent. Vous pouvez être sûr que c'est pas des dauphins, quoi, qui viennent pas d'origine stellaire à ce niveau-là, quoi. Et puis il y en a d'autres, ça, ils vont courir, ça va être des vrais lapins, quoi, ça va être des... Voilà. Donc, quelque part, ce ne sont que des souvenirs qui reviennent et qui fait que si on fait ce genre de choses, ça ravive, ça reconnaît quelque chose en nous. Voilà, par rapport à ça. Bien, alors là, j'ai éclusé maintenant toutes les questions qu'il y avait eu de poser. Et puis, je vais demander à Brigitte de me passer les questions qu'il y a effectivement sur le chat. Alors, je vois vite fait là. Alors, Mille, est-ce que le channeling, c'est uniquement des messages parlés? Alors, non. Quand on dit channeling, c'est un mot que je vous dis, moi, que je mettais sur 4, 5, 6, c'est-à-dire que c'est une entité extérieure qui cause à travers vous, mais cette causerie n'est pas forcément uniquement parlée, c'est-à-dire vocalisée par quelqu'un, par une corde vocale. Donc vous pouvez très bien effectivement recevoir des messages de personnes et les écrire directement. C'est-à-dire que c'est pas le même circuit, mais grosso modo c'est à peu près ça. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens reçoivent, canalisent, et ils peuvent le faire, par exemple certains en faisant des peintures. Donc le côté vocalise est bien sûr quelque chose d'important pour nous préhumains, parce qu'on pense que quand on ne parle pas, qu'on n'est pas capable, qu'on est des muets entre guillemets, que la vie commence à avoir un sérieux coup, parce que comme j'avais écrit un article là-dessus sur les différents types de langage, le langage parlé est le langage involutif le plus lourd. Hein, c'est-à-dire que on est très 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 loin, je dirais, de la véritable communication. Donc c'est le pire outil qu'on puisse avoir. Donc quand un canal ou une entité essaye de passer par quelqu'un et ça vocalise, il faut savoir qu'on est limité, un, par le vocabulaire, deux, selon l'intonation de ce que l'autre va mettre dedans, le sens peut quand même varier énormément. Donc c'est pour ça que les messages, par exemple, écrits sont un tout petit peu différents, hein, et où la personne reçoit, effectivement, mais elle entend sans entendre. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'entend pas une voix, déjà, hein, et elle tape sur le clavier, c'est tout, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une table de Ouija, mais nettement améliorée, on va dire, hein. C'est-à-dire que, vous tapez sur le clavier, tac, 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 et puis, vous dites, ah putain, c'est génial ce que je viens de frapper, mais en fait, vous n'en aviez absolument qu'une idée. Hein. Après, il peut y avoir, effectivement, je dirais, d'autres façons qui vont se cumuler les unes aux autres. Hein. Je pense particulièrement à moi, dans le sens où, en fait, c'est pas... Moi, je sais que cette entité, c'est pour moi, je considère que c'est mon soi supérieur, mais... parce qu'il n'y a jamais eu de nom qui m'a été donné, puis je m'en fous, en fait, complètement. C'est que, quand je frappe, j'ai des fois un titre, une photo. Je vois une photo, ah tiens, faut que je parle de ça, ça y est. Bon, ok, je vais parler de ça, mais je vais frapper sur le clavier à la vitesse grand V. Souvent, des fois, dans mes phrases, il manque des mots, parce que la pensée va plus vite que ce que j'ai le temps de frapper. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de relire certains articles, et je me dis, putain, mais il manque des choses là-dedans. J'ai loupé des morceaux, là. Il y a des fragments qui manquent, là. Et parce que pour moi, l'idée était absolument claire, mais quand je lis la phrase que j'ai écrite, j'ai dit, mais attends, j'ai bouffé la moitié de la phrase, là. Et donc, ça se fait sous forme de phrase, mais c'est un langage parlé. C'est-à-dire que quand j'écris, ça ne va pas être un français, vous savez, comme on a appris à l'école, le français écrit. Non, c'est je transforme comme si je me causais. Enfin, je me causais, c'est... ça me cause. Hein, enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, là, mais c'est je transforme une impulsion en une espèce de monologue, on va dire, que je frappe au clavier. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand les gens lisent mes articles en règle générale, c'est assez facile à lire, parce que y a un peu tout mélangé. C'est pas un français que j'ai écrit parce que j'ai réfléchi, j'ai construit la phrase, j'ai mis un sujet, un verbe, un complément. Je m'en fous de tout ça. Puis après, ils me diront, y a de l'humour. Moi, je m'en rends même pas compte. Moi, je me dis, je vois pas où il faut rigoler. Hein, mais... pour les autres, apparemment, ça leur fait du bien. Bon, d'accord, ok, c'est comme ça. Hein? Voilà. Alors, autre question, c'est uniquement par les mêmes parler. De Nabil, nous sommes influencés par nos vies antérieures à chaque instant présent. J'influence également mes vies antérieures ici et maintenant. Oui, tout à fait. Cependant, en quoi cela influence l'histoire avec un grand H? L'histoire, en fait, on s'en fout. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que je vois la réponse qu'il faut faire, mais c'est pas toujours évident de la formuler. Grosso modo, c'est comme si je te disais, là on est à Paris, il faut aller à Rome. Combien de routes il y a pour aller à Rome? Il y en a plein. Il y en a plein. Tu peux décider de passer par Brest, Bordeaux, passer par Madrid, longer toute la côte méditerranéenne et puis arriver à Rome. Mais tu peux dire aussi Berlin, c'est pas mal. Hein. Mais je vais aussi passer par la Belgique. Hein. Mais bon, si je suis un peu pressé, je vais peut-être tracer Lyon, Milan, Rome. Non, mais ok. Donc il y a plein de chemins. Et ça s'appelle les fils du temps. C'est-à-dire que nous pouvons prendre plein de chemins pour arriver au même objectif. Donc, dans les vies antérieures, eh bien, nous avons tous des objectifs, puisque chaque vie qui est vécue, on dit antérieure, mais elle ne l'est pas, en fait, on dit que on doit travailler selon un contrat de vie. Ce contrat de vie, en fait, c'est une mauvaise note qu'on a eue, c'est-à-dire que, bon, en fait, on n'a pas bien compris la leçon, et ben, on est en train de repenser la leçon. Donc, ce contrat de vie, cette incarnation, eh bien, on va la vivre avec ses difficultés afin de pouvoir effectivement comprendre la chose. On est d'accord. Donc, j'avais donné lors d'un article un exemple. C'est, admettons, j'ai 8 vies antérieures, enfin, ou 25, comme vous voulez, on s'en fout. Et ça correspond à un étudiant qui va dans une salle de classe. Et simplement, bah, comme tout étudiant qui a un programme scolaire, bah, il n'a pas qu'une seule discipline à apprendre. Il n'a pas que français. Non, il a du français, il a de l'anglais, il a de la physique, il a des maths, il a du dessin, il a du sport, il a plein de disciplines à suivre. Et donc, vous pouvez imaginer que pour une incarnation, il ne peut pas suivre toutes les disciplines à la fois. Donc, ce qu'il fait, il se dit, moi, en tant qu'esprit directeur, je vais m'incarner, je vais être un sportif. Parce que là, discipline sportive, j'étais vraiment à la rue. Donc là, il va falloir que je bosse et que je devienne un athlète. Ok, très bien. Voilà la difficulté. Ensuite, je vais balancer une autre incarnation. Là, lui, en maths, il était vraiment nul à chier. Il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là, tant que j'intègre pas ça, j'y arriverai pas. Donc, on envoie une incarnation pour devenir un matheux. Et puis, j'envoie une autre incarnation parce que j'étais aussi une bille en physique, hein, c'est-à-dire que je ne connaissais rien, quoi. Et je tombais toujours dans les croyances, dans les machins, dans les trucs à la con, et je croyais n'importe quel curé parce qu'en fait, en physique, je connaissais que dalle. Donc, je vais aller prendre des cours de physique, je vais devenir physicien dans cette vie. Et donc, si on reprend un tout petit peu tout ça, eh bien, on va se rendre compte que toutes nos vies sont interreliées. Parce que si l'étudiant, dans une vie antérieure, qui devrait être théoriquement un matheux, eh bien, quelque part, il ne suit pas bien les cours. Vous croyez que moi, en tant qu'étudiant en physique, je vais y arriver. Ça va être dur. Ça va être dur. Pourquoi ? Parce que je n'aurai pas les bases mathématiques suffisantes. Donc, c'est pour cela que quand dans cette vie, par exemple, en tant que physicien, on va dire, j'arrive à comprendre un truc, à réaliser que tel outil mathématique, il me fait comprendre des trucs incroyables, eh bien, ça va renvoyer instantanément à mon soi supérieur qui est en contact avec l'autre soi supérieur, de mon autre partie de moi-même, au matheux en disant, tu sais, là, c'est génial ce que tu viens de faire là. Et donc, ça va le mettre sur une autre ligne de vie. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par Brest et Madrid pour aller à Rome, il ira à Lyon directement, c'est-à-dire qu'il va gagner du temps. Donc en fait, à chaque fois que dans cette vie, nous écoutons nos petites voix et nous remplissons nos contrats de vie, eh bien en même temps, nous facilitons la tâche aux autres moi, aux autres parties de moi qui sont dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Et donc tout ça, bien sûr, c'est interactif. Donc il y a bien un programme scolaire et il y a bien plein de disciplines. Mais aujourd'hui, si on me demande, Laurent, mais comment tu fais là pour écrire des tas de trucs, c'est génial, etc. Je dis, j'en sais rien parce que moi, je suis pas d'abord un philosophe, je suis pas un littéraire, parce qu'à l'école en français, j'étais absolument nul à chier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a viré de l'école. C'est parce que j'arrivais même pas à écrire, j'étais nul. On m'aurait jamais, j'aurais jamais même moi, il y a quelques années de ça, pensé qu'un jour j'allais écrire. Parce que l'écriture, c'était pour moi pas impossible, mais comme dirait l'autre, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Et donc, il y a des tas de choses comme ça. Donc, on découvre que l'on a des dons uniquement quand, en fait, on se laisse porter par les choses et parce qu'une autre partie de nous-mêmes, quand on se met en contact avec notre soi supérieur, eh bien, va nous apporter ce don. Parce que c'est nous. Et donc, par exemple, quand vous prenez un instrument de musique, même si vous n'avez jamais joué de la musique de votre vie, eh bien, il y en a qui vont apprendre très très vite, ils vont faire des progrès extraordinaires, parce que tout simplement, ils ont une autre partie de lui-même qui est en train, qui a 50 ans de bouteille comme musicien de l'autre côté, dans un autre espace-temps, et il en bénéficie directement. Donc, plus nous allons avancer vers la 4D, 4D+, et plus nous allons découvrir que nous sommes multiples, et qu'en fait, nous devons nous reconnecter Mais ne pas nous reconnecter par rapport à l'extérieur, nous reconnecter par rapport à l'intérieur. C'est-à-dire revenir au contact de nous-mêmes, c'est-à-dire à l'écoute de notre corps, de nos intuitions, de nos ressentis, de nos impulsions. Parce que c'est notre ADN qui, en fait, ni plus ni moins, est en train de recoller, ni plus ni moins, les morceaux. C'est-à-dire, nous ne faisons que relire des choses, enfin, nous faisons qu'accéder et lire à des pistes d'informations qui sont en nous et qui ont leur propre vie ailleurs en ce moment. Vous voyez, c'est un ensemble où il faut voir que chaque être humain, c'est comme une cellule d'un grand corps. Il se croit tout seul dans son coin, mais il n'est absolument pas tout seul. Mais ce qu'il fait, à son niveau, même le plus petit qui soit, bénéficie à l'ensemble. Donc, dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord et qui fait son truc, on appelle ça un cancer. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler en termes d'harmonie. Donc, l'objectif, c'est pas qu'il y en ait 10 qui fassent ce qu'ils veulent et puis les 90 autres, ce sont des moutons. C'est que chacun doit exprimer son unicité, mais en fonction d'un collectif. Or, ce collectif, à notre niveau, on ne peut le connaître qu'en écoutant sa petite voix. Parce que ce collectif appelé, on va dire, humanité, on y est connecté en permanence. On est dedans. Mais on ne peut y accéder consciemment qu'à l'intérieur de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, chaque cellule de notre corps est non seulement connectée à chacune des cellules de notre corps, mais est connectée aussi à l'inconscient collectif. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur Terre, nous sommes au courant. Enfin, c'est inscrit, on va dire. Et donc, nous avons l'aptitude d'y accéder. Et voilà pourquoi, quand il y a une invention, d'un seul coup, c'est qu'il y en a trois qui ont la même idée. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes connectés au même inconscient collectif. Et donc, dès qu'une idée germe, eh bien, les personnes qui sont connectées à ce moment-là, à cette idée, bon, ils vont la prendre et la développer. Ils croiront dire « ouais, j'ai inventé un truc », en fait, ou « j'ai créé un truc ». Moi, tout ça, c'est des grands mots qui me font sourire, parce que ce sont des mots de 3D. C'est-à-dire qu'on ne crée rien, on n'invente rien. On ne fait qu'actualiser quelque chose qui existe déjà virtuellement et qu'on attend de nous qu'on le mette dans la matière. Voilà pourquoi, quand nous accédons en 4D, 4D+, eh bien, et que l'on vit notre être-té, dans notre icité, on va dire, eh bien, les solutions viennent naturellement à nous. C'est-à-dire que si vous avez un chantier à faire, eh bien, vous regardez le chantier pour ce qu'il est, clac, 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 et puis vous allez dire, ah tiens, je vais faire ça, ok, d'accord, très bien. Et puis, le lendemain matin, vous relevez et vous avez d'autres idées qui sont encore meilleures, qui vont vous prendre encore moins de temps et qui vont vous coûter moins cher. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, l'inconscient collectif, de par, je dirais, les qualités de chacun qui redevient unique, eh bien, va trouver des solutions. C'est assez marrant de croire, enfin de voir aussi, que le problème que vous avez posé, d'autres y ont réfléchi et y apportent leur solution. Mais ils en sont totalement inconscients. Voilà en quoi chaque cellule est importante. Parce que même si elle ne paye pas de mine, elle participe à l'intelligence globale de l'humanité. Voilà pourquoi tout être qui est en paix, qui élève sa vibration, élève la vibration de l'ensemble. Et vous savez, des petites bougies allumées avec des petites bougies, à la fin, ça commence à faire beaucoup de lumière. Hein. Parce que c'est, comme je le disais un tout petit peu avant, exponentiel. C'est-à-dire que deux individus ensemble, c'est comme s'ils étaient quatre, mais trois individus, c'est comme s'ils étaient neuf. Et s'ils étaient quatre, ils seraient comme s'ils étaient 16. C'est-à-dire que ça se multiplie à une quantité incroyable. Et rappelez-vous ce que je vous ai écrit aussi dans certains articles, c'est le pourcentage, c'est 0,5%, c'est-à-dire une personne sur 200. C'est la masse critique. C'est-à-dire que dès qu'une personne sur 200 pense quelque chose, elle commence à influencer le collectif. Donc imaginez quand il y en a 2 sur 200, puis après 3 sur 200. Et bien petit à petit, le collectif prendra la couleur de plus en plus. Donc il est clair que quand il y aura 100 personnes sur 200, il y aura le basculement. Et donc c'est ce qui se passe quand nous allons passer en 4D. Ça commence déjà, c'est-à-dire que plus il y a d'individus qui pensent ascension, et plus obligatoirement l'ascension se fera. Et donc ça se fera d'autant plus vite que les individus vont s'y coller et le vivre véritablement. Voilà pourquoi ça ne prendra peut-être pas forcément 50 ans pour qu'on y arrive et qu'on passe par le sas on va dire, de la 4D qui vont à la 5D. Personne ne peut dire à quelle vitesse nous allons le faire, parce que contrairement à toutes les formes d'évolution de vie qu'il y a eu depuis l'aube de l'humanité, nous avons été les premiers à passer d'un stade élevé de fréquence à une basse fréquence. C'est-à-dire que ce que les religions appellent la chute, nous avons simplement chuté en fréquence. C'est-à-dire que nous avons descendu nos fréquences tellement bas que, contrairement aux autres vies, les autres vies, ben, quand une âme commence, elle commence par le monde minéral, etc., enfin, elle suit toute sa musique. Nous, ben, on a bien monté jusqu'au 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais aussi on s'est dit, maintenant, ben, on va retourner en arrière, puis on va voir comment on va réagir. Donc le résultat, on a déjà fait le chemin. Donc, sans le savoir, on est des redoublants. C'est-à-dire qu'on connaît déjà tout le programme. Simplement, on a mis le voile de l'oubli pour ne pas se rappeler qu'on connaissait le programme. Mais à fur et à mesure que l'on avance, on se rappelle par bribes les morceaux du programme. Donc en clair, au lieu d'apprendre par exemple une année scolaire complète normale, avec un temps normal, hein, entre guillemets, on va dire un an par exemple chez nous, mais bon, qui pourrait prendre un néant, entre guillemets, hein, si on prend d'autres mesures, eh bien nous, en fait, peut-être qu'en l'espace d'une semaine, on aura appris le programme. Pourquoi ? Parce qu'on le connaît déjà le programme, on a déjà réalisé tout ça, et c'est pour ça que on nous regarde avec des grands yeux parce qu'ils se disent, on ne sait pas ce qu'ils ont. C'est comparativement à d'autres formes de vie. Nous sommes des super, super génies. Pourquoi ? On connaît déjà tout. Puisque je vous rappelle que les scientifiques fous, ceux qui ont voulu tenter cette expérience, c'est nous. Et donc, on est venu s'incarner pour vivre nos propres idées en disant, on va y aller et on va mettre le turbo. Et c'est vrai que pour mettre le turbo, bah, on a fait la 3D falsifiée, entre autres. Pour nous dire que plus on nous foutra dans la contrainte, plus on se mettra dans la merde, et plus ben, il nous faudra sortir à la surface pour prendre un bol d'air. Donc on a des réactions extrêmement rapides, extrêmement violentes, mais extrêmement géniales d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous sommes capables de sortir d'un merdier dont personne ne pouvait prédire que quelqu'un pouvait s'en sortir. Donc ce qui est donné pour moi, par exemple, pour je dirais 50 ans, eh bien en fait, il n'y a rien qui dit que dans 10 ans, on a déjà fini le programme. Tout va dépendre de chacun, de chaque cellule de l'humanité. Et si chaque cellule suit la musique d'écouter l'intelligence du cœur, alors à ce moment-là, l'inconscient collectif, les gens vont se connecter donc de plus en plus à l'inconscient collectif, et donc vont s'entraider les uns les autres d'une manière incroyable. Et là, ça va déménager, quoi. Et donc, pour les gens qui pensent que passer en 4D, on va se les glander, on va plus rien à foutre, c'est que plutôt là, il va falloir qu'ils mettent la ceinture, parce qu'il va y avoir le turbo. Mais comme ils ne savent pas ce que c'est un turbo et encore moins une ceinture, ils se disent, bah, on va glander, on va devenir des évanescents, etc. Non, on va être encore plus plaqué à la matière comme jamais. Pourquoi ? Parce que c'est le but de la manœuvre. C'est de pousser la musique le plus loin possible dans ses retranchements. Et donc, nous ne sommes pas... Si nous sommes des tarés parmi les tarés, des tarés et des kamikazes parmi des kamikazes et des kamikazes, nous sommes aussi les plus doués parmi les plus doués des plus doués. Mais ça, la religion catholique et bien d'autres nous ont descendu en flèche et c'était le but. Parce que quelqu'un qui croit qu'il peut, bah, il va le faire. Mais si on lui dit t'es nul à chier, tu pourras jamais le faire, t'es un incompétent et de toute façon pour qui tu te prends, bah, c'est sûr qu'il aura plus de mal pour le faire. Donc voilà pourquoi plus on écoutera notre petite voix et plus on va booster la machine. Et donc la vieille bagnole qu'on pensait qu'elle allait, qui se traînait à mort, ben on va découvrir que c'est un TGV. Mais ça, c'est nous qui allons le découvrir. Parce que nous sommes un TGV qui simplement roule au ralenti. Donc c'est lourd, ça ne bouge pas vraiment et ça ne fait pas frémir les rails. Mais quand ça va prendre de la vitesse, je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont sauter beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, donc l'histoire, on s'en fout, parce que l'histoire, c'est de la 3D. Et il faut savoir que toute la notion d'histoire a été tout simplement, je dirais, trafiquée suffisamment. Parce que si je prends simplement l'histoire de la France, on regarde tout il est beau, tout il est gentil. Mais quand on regarde que pour coloniser des pays comme l'Afrique, combien de morts on a fait, combien de boucheries on a fait, combien de saloperies on a fait, ça c'est écrit nulle part. Donc, on peut être fier d'être français, mais il faut aussi mettre sur l'autre plateau de la balance quelles ont été toutes les saloperies, les boucheries que nous avons faites pour obtenir la domination de peuples et de civilisations. Et ça, c'est pas dans les livres d'histoire. Amandine, j'ai du mal avec le concept de détachement des liens affectifs. Pourtant, ma famille m'a montré ce qu'il peut y avoir de pire. Mais dans un juste équilibre, l'affection est un sentiment positif, même s'il entraîne un attachement. Non. Alors, on verra que l'affectif est quelque chose qui est une extension, on va dire, du corps émotionnel. C'est le corps émotionnel, on va dire, falsifié. Donc, le lien affectif, c'est un attachement à quelqu'un. Et donc, d'une certaine manière, c'est, comment dire, c'est une chaîne. Alors, cette chaîne, elle peut avoir des avantages. C'est sûr que s'il y en a un qui coule et que vous avez la chaîne, vous pouvez au moins la récupérer. On est bien d'accord. Mais c'est un petit peu comme, je dirais, dans les montagnes. Vous savez, tout le monde se met en corde de rappel, etc. Il y en a un qui dévisse, c'est pas difficile, tous les autres y passent. Et tous les autres y passent. Enfin, moi, je suis pas un alpiniste hein, de base, mais globalement, j'ai jamais compris pourquoi ils font ça. Parce que soi-disant c'est pour sauver, mais a priori, quand celui tête il dévisse, il emmène tout le monde. Donc, quelque part, un lien affectif, c'est ça. C'est-à-dire que bah, c'est une cordée, et dès qu'il y en a un qui se met à déconner, bah, c'est la cordée complète qui va prendre. Donc, d'une certaine manière, on le verra, même si on est encore en 3D et qu'on dit c'est un attachement, tu sais. Quand on dit ah oui, c'est mon fils, j'aime mon fils, et que tu commences à lever le voile de l'oubli, et tu vois que ce fils, en fait, dans une vie antérieure, a été ton violeur et qui t'a violé 53 fois, et qu'en plus il t'a coupé la tête ensuite, est-ce que tu l'aimeras encore? C'est une question à se poser. Parce que, en fait, c'est parce que nous sommes ignorants que nous prêtons au lien affectif des valeurs. Mais si nous savions véritablement avec qui on vit, qui sont ces gens, entre guillemets, qui sont venus dans notre vie, hein, qu'on n'a pas voulu apparemment en tant que préhumain, hein, parce que quand moi je suis né, je me suis dit, bah tiens, j'ai des frangines, j'ai des parents, je ne les ai pas choisis. Bon, quand on prend de la bouteille, c'est sûr, hein, on comprend que tout ça a été calculé nickel chrome. Mais quand on se la prend vraiment 3D, on se dit ah papa, oh maman, ils sont beaux, ils sont gentils, il y a les frangines, il y a tout ça, ok très bien. Mais dans la réalité, ce n'est que de l'illusion de 3D. La seule chose que je peux dire, c'est que quand vous êtes en 4D+, ce fameux lien affectif, et donc, même comme tu dis, s'il entraîne un attachement, eh bien, ne peut plus avoir lieu. Il y aura un lien, c'est sûr. Mais un lien n'ayant aucune condition. Parce qu'un lien affectif, c'est un lien conditionnel. T'es mon fils, alors tu dois m'écouter. T'es mon fils, je suis ton père. Alors, c'est que de la condition. Un lien, moi j'ai des liens avec des gens, mais il n'y a aucune condition. Tout simplement. Ça veut dire que je peux aimer des gens. Oui, je les aime, je les apprécie. Je dirais même. Je préfère utiliser le verbe apprécier. Je les apprécie. Je les apprécie pour ce qu'ils sont. Ici, maintenant. Ce qu'ils deviendront, j'en sais rien. Ce qu'ils ont été, je m'en fous. J'apprécie. Donc, si je peux passer, on va dire, des bons moments avec eux, c'est-à-dire des moments vibratoirement intéressants, je le fais. Et je suis très heureux de ça. Parce que c'est le partage. Donc, ce que les gens appellent l'amour. Mais. Si demain, entre guillemets, cet ami, ce frère, doit partir, doit s'en aller, soit physiquement ou pas, ça veut dire qu'il meurt ou qu'il ne meurt pas, ok. Il aura été de passage, j'en aurais bénéficié pendant tous mes instants présents, comme lui, et je n'aurai absolument aucun regret. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'autres personnes viendront boucher le trou. Et c'est ça qu'il faut voir. Quand les gens, par exemple, pleurent pour parce que un tel est mort, etc. C'est parce que, en fait, sur le moment, il est normal de pleurer, c'est une émotion, c'est normal, on la laisse passer. Mais il y en a, ils n'arrivent pas à s'en décrocher, quoi. Pourquoi? Parce que du temps qu'il était vivant, ils n'étaient pas dans leur icité. Et donc, ils ont tellement de regrets. Et ils se disent, et c'est ça qui est marrant, quand quelqu'un meurt, d'un seul coup, on lui trouve 320 points positifs. Pourtant, quand il était vivant, on en avait 426 négatifs. Hein, et les positifs, on les avait complètement oubliés. Hein. Donc, quand on est en 4D+, il n'y a pas, je vois que le négatif, et il me fait chier, etc., etc. Et puis, ben, le positif, ce sera seulement quand il sera mort. Non. Quand vous êtes dans l'instant présent, vous voyez le positif, le négatif, vous en êtes conscient, mais vous n'y prêtez pas plus d'attention que ça. Qui fait que quand la personne n'est plus là, pour des raisons psychologiques, un divorce, n'importe quoi, séparation, enfin tout ce que vous voulez, eh bien, ça reste toujours intact dans votre tête, dans votre cœur. Donc, on peut apprécier quelqu'un, on peut vivre avec quelqu'un, on peut partager de grands moments avec quelqu'un. Et pour cela, et sans pour cela devenir un attachement, c'est-à-dire une nécessité, un enchaînement à l'autre. Mais bon, tout ça, ça peut paraître du baratin, du vent pour beaucoup de gens, mais de toute façon, vous le vivrez, que vous le vouliez ou non. Vous allez le découvrir, parce qu'en augmentant votre vibration, vous allez découvrir petit à petit ce que vous pensiez être la vie, ce que vous pensiez être l'amour, n'était qu'illusion à un certain stade. C'était que des enchaînements dus à du manque. Une dernière question, celle de Véro, hein, puis après je vais arrêter parce que il commence déjà à être 11h30. Ne serons-nous donc plus dans cette conception actuelle qu'il faut travailler pour vivre et faire vivre sa famille? Comment quitter ce mode survie? Bah, c'est simple, comme d'habitude, nous allons, à fort à mesure que nous allons suivre notre petite voie, nous allons voir que nous allons être naturellement poussés dans certaines directions. Et ces directions sont celles qui vont être, je dirais, harmonieusement harmonisées afin que tout le monde travaille dans le même sens. Donc, ce qui va faire que si quelqu'un dit « Ah, mais je sens qu'il faut que j'aille là-bas, puis que je fasse ça ben, », vous allez là-bas, vous faites ça. Mais en même temps, ça va impacter un nombre important de gens qui, eux, s'ils suivent les mêmes principes, vont faire qu'un monde va se construire d'une manière naturelle, coordonnée et donc harmonisée. Et ceci sans discussion, sans élire des comités de direction, sans avoir une mairie avec tous ceux qu'il y a autour, sans votation, sans rien du tout. Parce qu'on aura compris qu'en suivant notre soi supérieur, qu'en suivant notre petite voie, tout est déjà planifié, tout est déjà organisé. Simplement, nous avons à le mettre en œuvre afin de l'expérimenter, comme je le disais précédemment, afin de corriger, comme dirait l'autre, tous les petits détails. Hein, tous les petits détails qui ne pouvaient pas être prévus, car non vécus. Donc, quand notre soi supérieur, il dit « faut faire ceci, faut faire ceci, faut faire cela », c'est parce que notre grand soi, esprit, hein, l'esprit, le grand esprit, le grand soi énergie, a déjà concocté toute la musique. Simplement, il ne peut pas vivre notre corps émotionnel. Et il ne peut pas prendre en cause aussi, on va dire, notre vieillissement, nos états d'humeur, etc. Donc, comme dirait l'autre, il donne des grandes lignes, mais après, c'est nous sur le terrain qui devons faire les choses. Et c'est en cela que l'un expérimente. Parce que quand vous faites un projet, il est toujours parfait. Mais quand vous le faites, vous vous rendez compte de toutes les imperfections et de tout ce qui ne jouait pas. Et donc, vous en dégagez une expérience. Et donc, cette expérience, elle est renvoyée, bien sûr, à notre soi, via notre soi supérieur, à notre grand soi, qui la prend en ligne de compte et continue la musique. Donc, nous sommes tous interactifs. Et donc, c'est en cela que travailler était, dans notre monde de 3D falsifié, est le mode de vie normal, puisque nous avons été transformés en esclaves. Et donc, quand on parle de vivre et faire vivre sa famille, il n'y aura pas de faire vivre sa famille. Ça n'existera pas en 5D. Parce que le mot famille, c'est un mot qui ne va pas disparaître, mais presque. Puisque d'abord, eh bien, vous n'aurez pas le cas, je dirais, du bah, j'ai 10 gamins à faire vivre. Non. Puisque ça sera, comme je disais, une reproduction à l'identique. En clair, vous aurez une vie d'incarnée, donc ça veut dire que vous aurez droit à un enfant. Un et un seul. Donc là, quand vous direz toute ma famille, ça va être vite vu. Et comme on sait que chaque enfant ne sera, enfin un enfant ne sera accepté que si l'un des membres, on va dire, de la tribu ne reviendra plus jamais dans la tribu. Donc la notion de famille, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est basée sur une reproduction, basique, instinctive, version 2D, hein, vous savez, c'est la nature, hein, c'est-à-dire, je suis un chêne, il y a plein de glands, et plus il y aura de chêne, et mieux je me porterai. Mais non, ça ne marchera pas comme ça. Donc, ces notions de famille, de lien affectif et tout ça, va être profondément modifié. Hein, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que nos durées de vie n'auront plus rien à voir avec les durées de vie que nous avons aujourd'hui. Donc, quand je dis que vous allez avoir un enfant dans toute votre vie, si vous vivez 500 000 ans, votre enfant, admettons, alors je vais prendre des exemples de certaines civilisations intraterrestres, c'est assez intéressant, c'est que eux, globalement, ils disent, avant que tu penses commencer à rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais avoir un enfant, attends 300 ou 400 ans, déjà. Après, quand tu auras 1000 ans, tu pourras peut-être penser vivre en couple avec. Puis quand vous aurez 2000 ans de vie commune, vous serez peut-être éligible à avoir un enfant. Et puis, éligible, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir, c'est que vous êtes sur la liste. Et puis, quand se présentera l'opportunité qu'il y a un enfant qui peut venir au monde, ben, vous êtes sur une liste. Et donc, ce n'est pas le premier inscrit qui... Non, ça va être en fonction de votre fréquence en tant que couple. Et donc là, bah, ça va mener un petit peu plus loin, et ben, vous serez peut-être obligé d'attendre 10 000 ans ou 15 000 ans avant de l'avoir. Alors ok, très bien, donc tout ça, allez, admettons, ça fait 20 000 ans. Donc au bout de 20 000 ans, vous arrivez à avoir à votre gamin, vous êtes vachement content, heureux. Très bien. Vous vivez 500 000 ans. Donc ça veut dire que ce que votre enfant va rester votre enfant pendant 480 000 ans. Depuis, lui aussi, comme dirait l'autre, il aura grandi, et puis il dira « Papa, maman, vous êtes gentil, mais je suis grand maintenant. » Non. Donc, je dis ça, je donne des chiffres comme ça, mais tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans ce mode de survie, c'est comme l'on l'indique, on n'est pas en vie, on est en survie. Hein, c'est-à-dire que, en fait, parce que nous avons une vie très courte, nous sommes dans le mode reproductif maximal. D'ailleurs, si vous regardez dans les pays pauvres, quand ils n'ont rien à croûter, les gamins s'appondent partout. Pourquoi ? Parce que c'est un réflexe de la vie. Quand il y a pénurie, automatiquement multiplicité. Et la multiplicité amène encore plus de pénurie. Mais c'est pas grave, dans le temps, il y en a qui s'en sortiront. Donc ça, c'est un mode de survie pur et dur. Et plus, vous avez pu le voir, que plus un individu accède à une certaine forme de richesse matérielle, et moins il a envie de faire de gamins. Résultat, bah aujourd'hui, vous regardez dans les pays civilisés, ils ne sont même pas capables de se reproduire à l'identique. Hein. C'est-à-dire que grosso modo, si vous prenez l'Allemagne, pour un couple, pour deux individus, ils se reproduisent à 1,2 ou à 1. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ne se reproduisent qu'à moitié. En clair, si on attend deux générations et qu'on coupe toute immigration, l'Allemagne n'existera plus dans un siècle, il n'y aura plus d'Allemands sur Terre. Quoi. Non, mais c'est un exemple. Donc, plus matériellement on est à l'aise et moins on fait d'enfants. Donc ce mode de survie actuellement n'est valable que parce que nous sommes des esclaves et que bah, quelque part on bosse tous au SMIC ou pratiquement. Donc ceci en scindé n'existera plus puisque comme je dis il n'y aura pas de travail parce qu'il n'y aura pas d'argent. Donc il n'y aura pas de plombier, il n'y aura rien du tout puisque tu penseras à un truc et tu le fabriqueras toi-même. Donc tu n'auras pas à travailler. Donc, il n'y aura pas de notion de survie, d'abord, dans un premier temps, et il n'y aura pas de notion à mes enfants, parce que tu comprendras bien une chose, que si tu as un enfant qui vient à travers toi, c'est pas ton gosse, et il t'appartient surtout pas. Hein, bien au contraire, on verra que cet enfant qui naîtra sera éduqué, pris en charge par la communauté, mais ne sera pas ton gosse. Tu auras simplement, en tant que mère, et encore parce que le père, bon, ok, d'accord, mais en tant que mère, tu auras un droit de visite sur lui. Pourquoi ? Simplement pour dire que aucun être humain ne peut appartenir à quiconque. Et aucun être humain ne peut, manquer de respect et surtout lui imposer des règles que l'enfant ne veut pas. Donc, il y aura un très très gros changement, mais on a, on va dire, quelques décennies, hein, ces fameux 50 ans grand maximum, pour pouvoir mettre tout ça au clair et faire que, à l'image du peuple de Moïse qui est parti, on va dire, dans le désert et qui a tourné en rond quand même pendant deux générations, c'était tout simplement que pour arriver dans le nouveau monde, il fallait que tout ce qui est connu l'ancien soit mouru, comme on dit. Hein. Pourquoi ? Parce que les enfants qui sont nés dans le désert, ils ne connaissaient pas c'était quoi le matérialisme à outrance. Et donc, le nouveau peuple qui est arrivé à destination n'était fait que d'enfants qui étaient nés dans le désert. C'est un petit peu à cette image-là, on va dire, pour la 5D. C'est-à-dire que tous ceux qui arriveront en 5D se rappelleront complètement de tout ce qu'il y a effectivement eu en 3D, 4D, mais auront suffisamment élevé leur fréquence et, mis dehors les notions de survie de la 3D dans laquelle nous vivons actuellement. Et puis, tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne seront pas d'accord avec ça, ils iront en 3D unifié. Ils iront donc dans un monde plus paradisiaque que celui-ci. Et donc, les leçons leur seront nettement plus faciles. Mais de toute façon, le programme restera le même. Parce que quand on arrivera en 5D, 6D, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Que tu sois un redoublant ou pas. Hein, donc, voilà les réjouissances. C'est abandon total de tout ce que nous connaissons en tant que règle de 3D. Et pour cela, nous avons tout le temps qui est donné en 4D. Voilà. Bien, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de soirée maintenant, hein, bien que ça soit bien entamé. Et puis, à la prochaine webconf. Merci, au revoir à tous.